Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
La quoi ?
La bête !
Quelle bête, je vous prie ?
La bête !
Une bête ? Qui va me manger ?
La bête ! Bonjour, vous avez reconnu Bourville dans La cité de l'indicible peur de Jean-Pierre Mocky. Aujourd'hui, on célèbre l'agneau pascal, on dévore des œufs, des poules, des lapins au chocolat. Et aujourd'hui, on va dévorer aussi des romans, puisque à l'occasion du festival du Lac de Clermont-Ferrand, Joy Sormand va nous parler de la relation à l'aliment. Alors, vous êtes intéressé à la vache, comme une bête, et vous avez été dans la peau de l'ours. J'ai l'impression que vous êtes passé à la fiction grâce à la chair de la bête.
Oui, en fait, ce sont devenus des fictions un peu par hasard. À l'origine, je voulais écrire plutôt des reportages ou des documents, en l'occurrence sur le monde de la boucherie, sur le monde animal, sur le monde du zoo, du cirque. Et puis, je me suis laissée, en fait, emporter par les incroyables personnages que sont des animaux, des personnages de fiction que je trouve fascinants. Et c'est vraiment par le biais du personnage bestial que je suis passée du documentaire à la fiction, parce qu'on a envie d'en faire des héros, des animaux.
Alors, ça tombe très bien, parce que j'aimerais beaucoup que nous parlions de ce rapport bestial que nous pouvons entretenir avec cette bête qui nous humanise d'une certaine façon.
J'ai ce sentiment assez ambivalent, à la fois effectivement le sentiment de parenté avec la bête et donc d'une espèce de... Alors pas d'humanité partagée, mais en tout cas un monde vivant partagé. Et c'est vrai que je ressens très fortement cette parenté avec les animaux, l'autre grande figure du règne vivant. Et en même temps, ce qui me fascine chez les animaux, c'est l'étrangeté radicale, c'est l'altérité, c'est le mystère. Et voilà, dans l'animal, j'ai à la fois, et je pense que c'est exactement ce qui se passe quand on va au zoo, c'est-à-dire qu'à la fois, on les regarde comme nos miroirs, comme nos parents un peu éloignés, et en même temps, on fait une espèce d'expérience du mystère, on traque quelque chose dans leurs yeux, dans leurs gestes, dans leurs poils, dans leur masse corporelle, qu'on n'arrive pas vraiment à attraper.
Quand vous avez fait votre apprentissage dans une boucherie, ce rapport... à la chair, Joy Sormand.
C'est étonnant parce que le désir vraiment d'écrire sur la chair animale, sur la viande, sur le bœuf, elle m'est venue en fait du fameux tableau de Rembrandt, le bœuf écorché aussi. C'est-à-dire que tous les peintres ont se sont à un moment frottés quand même à cette matière magnifique, à Rembrandt, mais aussi Bacon, Soutine, enfin tous ont à un moment traversé cette expérience comme ça de la chair à vif. Et bizarrement, c'est venu par le motif pictural et l'envie de moi aussi peindre ma toile, d'écrire ce que c'est que cette chair dont on se nourrit et qui nous permet de rester en vie. Et puis petit à petit, justement, en commençant mon enquête, en allant à Rungis, en passant du temps dans les laboratoires des bouchers, à les regarder travailler, je suis complètement passée du côté des bouchers eux-mêmes et du côté du travail et du côté de la matière. Et j'ai laissé derrière moi les influences picturales, intellectuelles. Et c'est venu petit à petit.
Et l'odeur du sang ?
Et l'odeur du sang ne m'a pas du tout retourné l'estomac. Je trouve que c'est la même que l'odeur du sang humain, cette odeur un peu chlorée, un peu métallique, un peu froide. Il y a ces Deleuze à propos de Bacon qui dit ces choses magnifiques sur l'impossibilité, une fois qu'on est dépouillé de notre peau, l'impossibilité de faire la différence entre une chair animale et une chair humaine, et qu'un corps animal sur un billot de boucher, si on le regarde très vite, il peut être confondu avec le corps d'un homme, d'un enfant, que c'est la même chair et que c'est la même couleur du sang, en fait.
La couleur du sang de la belle et la bête, ça évoque des choses particulières pour vous ?
Bah, c'est un film, le film de Cocteau, je l'ai regardé. Il a fait partie un peu de mon corpus comme ça de films et de livres et de documentaires qui m'ont accompagnée pendant l'écriture. Et c'est vrai que cette espèce de désir érotique qu'on a pour la bête, il m'est apparu très fort dans cette pratique de la boucherie. Chez les bouchers, ça m'est apparu comme quelque chose d'assez évident. C'est cette façon qu'ils ont de caresser, de palper, de manipuler, d'attendrir, de malaxer la chair.
De tamponner.
Il y a 1000 verbes qu'on pourrait utiliser. Enfin, cette espèce de contact permanent avec la chair animale m'a paru effectivement assez désirable et assez érotique. Ouais.
Mais il ne faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais, sauf chaque soir à 7 heures, où vous dînerez et où je viendrai dans la grande salle. Il ne faut pas me regarder dans les yeux.
Alors, acceptez-vous de voir... De voir souper la bête de l'autre côté.
C'est même ce qui m'intéresse, d'observer en fait les bêtes vivre, exister, se déplacer dans l'espace, se mouvoir, pousser des cris, faire des gestes. Je trouve c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette espèce de distance et de proximité qu'on n'arrive jamais à résoudre, que je trouve fascinante. Et quand on va, je parlais tout à l'heure du zoo, mais quand on va au zoo, évidemment, le plus intéressant à regarder, ce sont les hommes et pas les bêtes. De regarder les hommes en train de regarder les bêtes. Le regard des êtres humains sur les bêtes. Et c'est ça qui est passionnant dans un zoo.
Le regard des animaux sur les animaux qui sont de l'autre côté, qui sont à l'air libre, est assez intéressant.
Oui,
aussi.
C'est vrai. Le regard en particulier des grands singes, des chimpanzés, des orang-outans. Quand on va, par exemple, à Paris, à la ménagerie du Jardin des Plantes, voir le Nénette, ce fameux orang-outan.
Cher Nicolas Philibert.
Voilà, oui. Le film de Nicolas Philibert. Et puis la doyenne du zoo, il se passe quelque chose de très troublant, effectivement. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même d'établir une espèce de typologie des regards humains sur l'animal, qui sont des regards empathiques, des regards admiratifs, des regards envieux ou des regards de terreur, des regards de dégoût, des regards qui cherchent le miroir. Et cette variation des regards, elle me semble parfois plus riche que celle que les êtres humains portent les uns sur les autres, parce qu'ils sont dans une espèce d'habitude, ils se reconnaissent immédiatement, alors que dans le regard qu'on porte sur l'animal, on est obligé de s'arrêter et de s'interroger quand même.
Comment s'est passée, vous, cette relation entre l'animal vivant et l'animal mort ?
Oui, de fait, on ne m'a jamais présenté une vache que j'allais par la suite manger. Et je ne sais pas comment je l'aurais vécu, mais ça, c'est pour moi un point absolument passionnant. Que j'ai découvert en parlant avec les éleveurs. Les éleveurs de vaches, je les ai interrogés justement sur ce rapport à leurs bêtes et comment ils vivaient ce moment de la séparation, puisqu'ils passent quand même leur vie à élever, soigner des animaux pour les mener à la mort, pour les mener à l'abattoir. Et je leur demandais comment se passait ce moment de la séparation. Et donc, j'avais des réactions très différentes et une qui m'avait frappée, un éleveur qui m'avait dit « Moi, je ne donne pas de nom à mes vaches. Parce que si je leur donne un nom, nous avons une relation, je les identifie comme une altérité et c'est trop dur de les mener à l'abattoir. Donc je leur donne des numéros. » Un autre qui me disait, j'ai écrit un petit... C'était une femme d'ailleurs, c'était une éleveuse de moutons qui me disait, j'ai écrit un petit poème à mes moutons pour leur expliquer le grand cycle de la vie et je leur lis ce poème avant de les mener à l'abattoir. C'est comme ça que je supporte ce geste. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et l'autre chose, c'est évidemment... C'est là où le boucher intervient. C'est évidemment ce passage de la transformation de l'animal. Quatre pattes, un corps, une tête.
Quatre têtes, ça va arriver.
Ça arrivera bientôt. Des yeux, voilà, une vie. Le passage de cette bête-là à un steak carré dans notre assiette. Et je me suis rendu compte que finalement, le métier du boucher, c'était de nous rendre supportable l'ingestion de viande et l'ingestion de matière vivante. Et que le métier du boucher, c'était de rendre invisible, de faire disparaître la bête pour que nous puissions continuer à être carnivores. Ça, pour moi, c'est vraiment les deux pivots effectivement du livre et de ce que j'ai trouvé passionnant.
C'est sa façon d'humaniser la bête ?
Au boucher ?
Oui.
Non, je pense que c'est sa façon justement de la déshumaniser, oui. De l'enlever du champ partagé des bêtes et des hommes, de la terre ferme que, voilà, que nous habitons ensemble, et de faire oublier qu'il y avait une vie, en fait, avant tout ça, avant cette côte de bœuf saignante dans notre assiette.
Oui, mais la vie de la bête n'est pas une vie humaine. Donc, si on revient à l'idée de bestialité et d'humanité, quelle est la frontière pour vous ?
Ce que je trouve intéressant, c'est de la franchir précisément cette frontière, c'est-à-dire
de la franchir ou de la franchir
de la elle a plus loin franchir, de passer d'un côté puis de l'autre. C'est une frontière qui évidemment est très claire et en même temps c'est une frontière très poreuse. Alors parfois pour le pire entre guillemets, j'entends encore il y a pas longtemps le procès d'un homme par exemple pour zoophilie, donc cette espèce de tabou par exemple
il aimait tellement les bêtes
qu'il s'accouplait avec elles, et puis cette frontière en fait pour le de manière beaucoup plus commune, elle est franchie en permanence parce que les hommes et les bêtes travaillent ensemble, que l'éleveur il travaille avec la vache, que finalement le boucher aussi travaille avec les bêtes, que le soigneur aux zoos il travaille avec les bêtes, que le montreur d'ours au cirque il travaille avec les bêtes. Donc cette frontière, elle est sans cesse traversée parce que nous faisons des choses ensemble. Nous travaillons ensemble, nous cohabitons ensemble, de moins en moins. Évidemment, on ne vit plus avec les bêtes comme autrefois où les paysans dormaient avec leurs vaches dans une seule pièce. Donc la cohabitation, elle s'est beaucoup effritée, mais elle est quand même toujours là, en fait, par le travail et puis par la nourriture, tant que nous serons... voilà, une espèce carnivore, il y aura cette collaboration.
Quoi ?
Rien. J'ai voulu lui faire peur, il n'a pas bougé d'un poil.
Nous ne vous voulons aucun mal. Et vous ?
Il bouge pas.
Venons ridicule, Aurore.
On parle bien aux chiens, aux chats.
Mais c'est un fauve, Aurore. Sauvage, brutal, un pur instinct de tueur.
Tu manques d'imagination pour une fois. Je connais cet animal, moi. C'est un pauvre ours de cirque, d'un cirque des Balkans, du Kosovo. Livré à lui-même depuis les horreurs de la guerre, son errance l'a mené jusqu'en Bulgarie, où des vendeurs d'ours, peu scrupuleux, l'ont capturé et vendu à des âmes sensibles et écologistes.
Joyce Sormand, vous avez passé du temps comme une bête aux côtés de ces bouchers qui vous ont mis en rapport avec la chair animale, mais vous êtes rentré dans la peau de l'ours. Vous n'auriez pas envie de rentrer dans la peau de la vache ou dans la peau du cochon ?
Ben, en fait, c'est justement parce qu'à un moment, dans Comme une bête, je rentre furtivement dans la peau d'une vache, dans la tête d'une vache, en fait. Pim, donc le héros boucher de Comme une bête, à un moment, il a une espèce de face-à-face avec une vache qui s'appelle Culotte, et il est pris d'une espèce de transe chamanique et il rentre dans cette grosse tête plate de vache. Et c'est en écrivant cette scène que j'ai eu justement l'idée de pousser plus loin ce geste. Et dans le livre d'après, donc la peau de l'ours, de rentrer, pour le coup, de manière absolue, dans la peau d'un animal. Mais j'ai voulu...
Mais vous avez choisi l'ours pour faire plaisir à Michel Pastoureau, faire plaisir à l'ancien roi des animaux, celui, la première divinité peut-être.
C'est vrai que la lecture donc de l'ouvrage formidable de Michel Pastoureau, L'ours, histoire d'un roi déchu, a été le déclic. Mais par ailleurs, ce qui m'intéressait, je parlais tout à l'heure de cette espèce de rapport entre la familiarité et l'altérité et l'étrangeté. Ce qui m'intéressait dans l'ours, c'est qu'il est à la fois très proche de nous, omnivore, il a un squelette plantigrade, il a un squelette proche du squelette humain. Au Moyen-Âge, comme le raconte Pastoureau, on considérait que c'était le seul animal à copuler en position du missionnaire comme les hommes. Donc il y a cette espèce de familiarité.
Avec tous les fantasmes qu'il y a.
Tous les fantasmes sexuels autour de l'ours. Donc,
que vous abordez d'ailleurs.
Voilà. Et en même temps, c'est cette bête sauvage redoutable qui peut nous décapiter d'un coup de griffe. Donc je trouvais qu'il était le candidat idéal pour habiter à l'intérieur de lui.
Quand vous regardez l'ours ou quand vous êtes l'ours regardeur, qu'est-ce que vous voyez ?
Le regard, échanger le regard. Boum, boum. Ah, ours, échanger, regard avec l'ours. Boum.
Domgame kaptu. Tatub gore.
Domgami kaptu tatub gore.
Re, domgami kaptu tatub gore.
Domgami kaptu tatub gore.
Re.
Domgami kaptu
Pardonnez-moi, je parle pas très bien, mais c'était un extrait du film admirable des frères Larieux, le voyage aux Pyrénées. Vous avez reconnu, bien sûr, face à ce regard de l'ours, Sabine Azéma. Joyce Ormond, c'est un film qui vous inspire aussi, cette cuisine des Pyrénées,
Oui, il fait partie du corpus qui niche dans le livre. Effectivement, le livre, il est traversé de beaucoup de films, de celui-là, de Grizzly Man, de Werner Herzog, de Fricks, de Todd Browning. La fiction a ce pouvoir quand même de nous emmener là où la réalité ne peut pas nous emmener. Et évidemment, je ne pourrai jamais me mettre dans la peau d'un ours et je ne pourrai jamais savoir ce que c'est qu'avoir un corps de 300 kilos, d'être recouverte de poils. Mais ça m'intéressait de fantasmer par la fiction cette présence animale. Et en fait, le regard de l'ours est surtout un regard qui est purement sensible. C'est-à-dire que l'ours, qui par ailleurs a une très mauvaise vue, mais l'ours a une ouïe très développée, a un odorat très développé, a une agilité malgré son corps massif. Et donc j'avais envie d'imaginer ce que serait que ce monde physique dans lequel nous vivons, ce qui serait capté par un autre corps que le mien, par un autre corps que le corps humain, et d'imaginer une vie purement sensible, débarrassée précisément de la conscience humaine qui nous encombre parfois, où on est dans la captation des sons, des odeurs, des mouvements du vent, des bruits des oiseaux, de la terre sous nos pattes. C'était ça que j'ai voulu expérimenter.
C'est le côté chamanique là qui vous attire
oui,
aussi.
Oui, effectivement. C'est
ça vous donne peut-être envie de danser avec les Indiens huteux, la danse de l'ours.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger.
Quand on est dans le ventre de l'ours, c'était arrivé au plasticien Abraham Poincheval, qui s'était enfermé pendant un mois dans le ventre de l'ours au musée de la chasse. Vous êtes allé le voir, mon petit doigt m'a dit.
Oui, j'étais en train d'écrire La peau de l'ours et donc j'apprends qu'il y a cette installation d'Abraham Poincheval au musée de la chasse à Paris. Donc évidemment, je me précipite et j'arrive dans cette salle où on était face à un ours empaillé sur ses quatre pattes. Effectivement, à l'intérieur du ventre, Abraham Poincheval avait créé une espèce d'abri anti-atomique.
Oui, de cabine de spationaute.
Voilà.
Oui.
Et il se nourrissait. Aussi, ce qui était intéressant, c'est que donc pendant ces semaines d'enfermement, il se nourrissait de la même nourriture que les ours, des baies séchées, du poisson séché, etc. Et il invitait les visiteurs à lui parler à travers la peau de l'ours. Et comme j'étais en train d'écrire mon roman, je lui ai lu quelques extraits pour essayer de rentrer en connivence avec cet artiste qui, pour reprendre l'expression fameuse de Deleuze, était dans un projet de devenir animal, quoi, de se fondre vraiment dans le corps de la bête.
Et toujours dans ce rapport animal avec l'animal, qu'est-ce que vous lui avez lu comme extrait?
Je crois que je lui ai lu en fait le début du livre qui raconte le viol d'une jeune paysanne par un ours. L'ours pose Suzanne à terre, immobile et mutique, avec d'infinies précautions, la déshabille lentement, dégrafant son corsage de ses griffes habiles, ôtant ses sabots, dénouant sa tresse, puis la viole en position du missionnaire. Suzanne serre les poings, ferme les yeux, s'absente de sa propre existence, il n'y a rien d'autre à faire. Suzanne s'évanouit, l'ours allait encore quelques minutes au-dessus d'elle, veillant cependant à ne pas l'écraser de tout son poids. Les mouvements de son bassin soulèvent la proie comme un fétu de paille, un pantin de chiffon. Il râle, se laisse tomber sur le côté, puis entreprend de ranimer Suzanne en léchant tout son corps avec la vigueur de sa grosse langue râpeuse, de la plante des pieds au front, parcelle de chair après parcelle de chair. Il la réchauffe en soufflant sur son ventre, la retourne pour caresser son dos, renifle sa nuque, masse ses doigts. Suzanne s'extrait lentement de son coma. Et l'ours lui aménage une couche de lichen et de bruyère au fond de l'antre, puis la porte jusqu'à son lit. Merci. Pas le moment le plus joyeux du livre, mais c'est le... mon héros donc est un être mi-homme, mi-ours, et il est cet être maudit qui est né de ce viol, de cet accouplement forcé entre la jeune paysanne et un ours de la forêt.
Et c'est un arrière-arrière-arrière petit-fils de Jean de l'Ours.
Oui, c'est tout à fait un cousin de Jean de l'Ours, puisque c'est en découvrant cette fameuse légende de Jean de l'Ours dans l'ouvrage de Michel Pastoureau que j'ai eu l'idée, voilà, de la reprendre, de la transformer. Et donc c'est en lisant Pastoureau que j'ai découvert cette attirance secrète, sexuelle très forte entre les jeunes filles et les ours. Voilà, c'est
oui, parce que vous avez dit, je vais vous lire la scène du viol. Dans les légendes du Moyen-Âge, on ne savait pas qui était le plus attiré par si c'était l'ours ou la jeune fille.
Oui, ça n'était pas des accouplements forcés. Mmh. Effectivement, Pastoureau raconte que quand le montreur d'ours passait dans le village, on enfermait les filles à double tour dans les maisons parce qu'on avait peur qu'elles se jettent d'amour sur l'ours. Donc c'était plutôt les filles qui étaient attirées et qui étaient tout à fait consentantes pour les... Pour les besoins du roman, j'ai dramatisé les choses.
Dans le voyage aux Pyrénées, là, des frères Larieux que nous avons écouté tout à l'heure, quand vous entendez l'ours, vous avez une émotion particulière, un appétit particulier?
Ce qui est attirant, c'est d'imaginer cette langue de l'ours. Ouais. C'est-à-dire, que diraient les animaux si on leur donnait la parole? Je crois que c'est un livre d'une philosophe et éthologue qui s'appelle Vinciane Desprez, qui m'a beaucoup influencé aussi. Et qui avait fait un livre, je ne sais plus si c'est le titre exact, mais que diraient les animaux si on leur donnait la parole. D'imaginer une langue de l'ours, d'imaginer une langue animale, je trouve que c'est un défi pour un écrivain assez formidable. Il y a un auteur qui s'appelle Tristan Garcia, oui. Qui a écrit un roman chez Gallimard, Mémoire de la jungle, dans lequel il invente une langue, la langue d'un singe, et il crée vraiment une langue animale, enfin une espèce de langue humaine ramenée à sa bestialité. Et j'ai trouvé que c'était un geste passionnant. Moi, je n'ai pas relevé ce défi-là, que je trouve immense, mais voilà, ça m'avait beaucoup intéressé.
Oh, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas! Je crois son regard et je saurai. Tu sauras quoi? Tu es folle.
Non, pas Sharon!
C'est vous. Vous nous comprenez? Nous ne vous voulons aucun mal, et vous?
Moi, ce qui me frappe, c'est l'opposition entre l'ours bestial et l'ours peluche. On a l'impression qu'il s'est, sans jeu de mots, désincarné en devenant une peluche. On vit dans un monde où la bestialité de l'homme est devenue beaucoup plus marquante et où la bestialité est devenue beaucoup plus peluche.
Je pense que la bestialité définit l'homme hier comme aujourd'hui et pour toujours. L'homme est par nature bestial. Après, je pense qu'on a perdu la bestialité de la bête, ça c'est certain. Perdant le rapport avec les animaux qui maintenant sont visibles dans des zoos comme des tableaux dans des musées, les abattoirs étant relégués aux franges des villes dans l'invisible, les paysans, les éleveurs travaillant de façon beaucoup plus mécanisée et aussi à distance avec les animaux, on a perdu leur bestialité. Mais celle de l'homme, malheureusement, on a du mal à s'en débarrasser.
Quand vous avez écrit Comme une bête, vous avez pu aller dans les abattoirs?
Non, j'ai demandé, j'ai fait des demandes d'autorisation, mais ce sont des lieux maintenant qui sont gardés comme des camps militaires, qui sont particulièrement secrets. C'est extrêmement compliqué d'y pénétrer, donc je n'ai pas eu l'autorisation. Je me suis contentée de vidéos sur Internet et d'entretiens avec des abatteurs. J'avoue que déjà la vision des vidéos était assez pénible, donc... je ne sais pas si j'aurais véritablement supporté en réalité de visiter un abattoir.
Et comment, à votre avis, supportent ce genre d'action les abatteurs? Vous avez parlé avec eux?
Oui, justement un phénomène un peu de déréalisation dont on parlait tout à l'heure, de mise à distance de la bête, et qu'ils beaucoup vivent leur travail comme un travail à la chaîne, et que finalement démonter des carcasses de bœuf, c'est la même chose que de monter une voiture sur une chaîne comme ça d'outillage. Donc ceux à qui j'ai parlé étaient vraiment dans cette idée que Ils devaient assurer un geste répétitif sur une matière qui passait devant leurs yeux et ils ne pensaient plus à ce qu'ils avaient vraiment devant eux.
Oui, ne plus penser.
Ne plus penser.
Donc
oui.
se déshumaniser
voilà,
aussi.
Voilà, mais ça c'est pas le problème de l'abattoir, c'est le problème du travail à la chaîne, c'est le problème de l'usine, c'est le problème de la déshumanisation, comme vous dites, du travail et des tâches répétitives.
Et Joyce Ormond, parce que vous évoquez cette mise à distance de la bête qui va devenir une carcasse, vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a une forme d'abattoir tout à fait singulière avec des chasseurs qui, pour éviter que la bête soit stressée, les tuer au fusil à lunettes.
Ah mais je savais pas, mais effectivement, on m'a dit que il fallait absolument pas provoquer de stress au moment de tuer la bête parce que sinon sa chair en fait se raidissait, devenait nerveuse et devenait impropre à la consommation ou en tout cas d'une qualité moindre. Donc il fallait être absolument tendre avec les animaux au moment de les tuer, mais je sais pas si c'est possible, si cet oxymore peut être résolu.
Et à propos de chair tendre, quand vous posez votre main sur un morceau de viande, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ?
En fait, rien d'autre qu'une pure sensation de moelleux, de froid. Mais je parlais tout à l'heure d'érotisme et c'est vrai que je trouve ça particulièrement... désirable et attirant cette chair et quand je vois chez un boucher la façon dont leurs mains dansent découpent, puis alors, il y a le balai des couteaux, les différents couteaux, la rapidité, la pression de leurs gestes, à un moment je dis dans le livre un boucher est comme un danseur, c'est vrai que ça m'évoque une espèce de danse sensuelle avec une matière extrêmement tendre, douce, moelleuse, enfin il y a quelque chose de très sexuel là-dedans évidemment.
Joyce Ormond, je vous donne rendez-vous donc pour ce festival de littérature du Centre à Clermont-Ferrand du 30 mars au 3 avril avec en particulier un rendez-vous que vous avez à Chamalières le 31 mars de 15h15 à 16h, c'est très 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 précis et je vous invite à rentrer dans les ordres, je dirais même à rentrer dans l'ordre de la grande gaieté qui est celui du petit monastère animé par Philippe Catherine dans Le Voyage aux Pyrénées des frères Larieux.
Aurore, en te donnant à tous ces inconnus, c'est au grand inconnu que tu cherchais à t'adresser.
Le mal n'existe pas. Et nous prêchons le grand saut en arrière, dans le bien, le beau et la légèreté.
C'est la seule et véritable aventure de la foi. L'ordre de la grande gaieté auquel nous appartenons n'a qu'une seule devise. Marche et chante.
Béni soit celui qui a vu la joie de la dame nue. Béni soient les fruits rouges des bois qui la remplissent des mois. Béni soit le petit matin qui dévoile son sein. Béni soit la faune et la flore qui partagent ses aurores.
Oh, la paix.
Attention, voix.
3, 4.
Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son et de Cédric Châtelus et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps que vous le souhaitez, vous le pouvez. Vous pouvez aussi la podcaster pendant un an et dans quelques instants, le journal sur France Culture.